Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute.
Voilà, voilà. Allez, on va enchaîner avec la lecture du Tractatus, lecture que vous attendez tous et toutes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cool, super. Très heureux si ce stream a pu permettre à Dystopia de vendre des jeux. C'est très très bien. C'est très très bien, je suis très content. Allez, on va prendre le Tractatus là. C'est parti. Nous aussi, on va s'accrocher aux branches. On va marcher sur les branches du traité logique et philosophique de notre ami Ludwig Wittgenstein. Alors... Alors vous avez vu, je vous ai fait un scanner de mon... J'ai scanné mon Tractatus. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez... voilà, l'état du bousin. Au secours. Donc voilà, je me suis servi de ces images pour faire le petit générique. Enfin, c'est pas un générique, mais le petit... vous savez, la petite vidéo pour attendre, voilà. Donc la dernière fois, on avait vu avec vous l'avant-propos du traité, et donc on avait prédiction CB d'aphorismes traités aujourd'hui. Ah, je sais pas combien d'aphorismes on va traiter aujourd'hui, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. 3-4 peut-être, j'en sais rien, je sais pas. On pourrait y passer la vie entière dans ce livre. 2. Non, peut-être plus quand même, on va essayer de faire mieux quand même. Allez les gars. Donc voilà, donc la dernière fois on avait vu ensemble... On avait travaillé ensemble sur l'avant-propos du traité, et on avait vu qu'en fait, Ludwig Wittgenstein est un philosophe très particulier, qui cherchait ni plus ni moins à résoudre tous les problèmes de la philosophie, en étudiant tout simplement ce que le langage nous permettait en termes de philosophie, c'est-à-dire quel type de proposition le langage nous permet-il d'énoncer, et nous permet-il, oui ou non, d'énoncer des propositions philosophiques sensées. Et on avait vu que donc le travail de Wittgenstein, ce serait justement de tracer la limite entre le sens et le non-sens, et que malheureusement, la philosophie allait se trouver du mauvais côté, que le langage n'allait pas être fait pour la philosophie, et que ce serait un des éléments de réponse à toutes ces questions philosophiques. Néanmoins, on verra que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de dire que le langage n'est pas fait pour la philo, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, et ça va être beaucoup plus subtil que ça. On verra ça ensemble. Parce que, évidemment, la poésie, le langage littéraire, certaines fictions peuvent nous amener à faire de la philosophie. Et donc, on verra que même si certaines propositions du langage sont insensées, elles, néanmoins, même si elles ne disent rien, elles permettent de montrer certaines choses. La distinction entre dire et montrer est très importante chez Ludwig Wittgenstein. On aura l'occasion d'y revenir. Elles permettent de montrer certaines choses. Et donc, de faire, de pratiquer de la philosophie, même si le langage n'est pas vraiment fait pour ça. Donc on avait vu ensemble le premier aphorisme, le monde est tout ce qui a lieu, le monde est la totalité des faits, non des choses, on s'était arrêté sur celui-là. Et je vous avais dit, je vous avais promis, monts et merveilles, je vous avais dit que cette phrase, ce petit aphorisme 1.1 est absolument révolutionnaire. Et je vous avais dit, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, on voit que ici, la définition que Wittgenstein va donner du monde, c'est un monde comme totalité de faits. Et ça déjà, c'est assez marginal, parce que la plupart des philosophes modernes, et même antiques en réalité, sont ce qu'on appelle essentialistes. Essentialistes, ça veut dire que globalement, ils pensent que le monde est une collection d'objets. Le monde est une somme d'objets. Le monde est une table, plus une chaise, plus une bière, plus un romaric, plus une bibliothèque, plus une carte de Trip to Sky, plus un dessin magnifique fait par Damasque, etc., etc. Et donc tout ça s'ajoute pour former un monde. Ça pourrait être une première définition du monde, c'est on dresse un catalogue de tous les objets qu'il compose, et en voilà une définition essentialiste. Le monde donc se compose d'objets. Là on voit qu'ici c'est pas le pari que fait Wittgenstein. Wittgenstein dit non, non, le monde ne se compose pas de choses, il se compose de faits. Ça va aussi contre l'idée atomiste de quelqu'un comme Démocrite, par exemple, qui disait « le monde est composé d'atomes ». Ça va aussi contre une certaine vision, on va dire, naïve de la physique moléculaire ou atomique. On pourrait croire que, justement, la physique nous décrit un monde comme rempli d'atomes. D'ailleurs, l'auteur des Chevaliers du Zodiaque, Masami Kurobada, est un essentialiste, puisque dans les premiers épisodes, il dit, voilà, ton corps, l'univers, est constitué d'atomes. Et donc ça déjà c'est déjà l'idée que on a un monde composé d'atomes et donc composé d'objets, composé de choses essentielles. Mais non, n'y va pas, Gwendal, c'est le moment où ça va devenir intéressant là. Faut pas partir. C'est justement le moment où faut rester là. Là, tu vas voir, on va rentrer dans le dur là. Donc le monde n'est pas des gens comme donc là ici. Wittgenstein se place en contradiction avec des gens comme Démocrite, avec les atomistes. Il se place en contradiction avec des gens comme René Descartes aussi, qui voyait dans le monde une totalité de substances. Et parmi ces substances, souvenez-vous, la fameuse substance pensante. Je commence demain à 5h15, donc j'ai pas envie de partir. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi Gwendal. D'accord, très bien. Bon, vous êtes excusé, monseigneur. Vous pouvez, effectivement, si tu commences demain à 5h15, j'avoue que bon courage Gwendal, du coup, pour tout ça. Je vais pas rester, du coup. ce serait mal. Voilà. Donc, bonne fin de soirée, Gwendal. Merci beaucoup d'être passé sur ce stream. Donc, voilà, ici, on voit un Wittgenstein qui se place en contradiction avec une vision naïve, finalement, du monde. Alors, naïve, pas si naïve que ça. On a vu quand même Démocrite, Descartes, la physique newtonienne, tous les gens qui pensent que le monde est composé d'atomes. Ça commence à faire quand même beaucoup de gens. Eh bien, Wittgenstein se pose ici en opposition avec cette vision des choses. Et il dit non. Le monde n'est pas composé de choses. Le monde est composé de faits. Et ça change tout. Ça change tout en réalité. Ça change tout. Et on va voir pourquoi. Alors, donc, on va laisser ici. Donc, on va laisser ici le côté totalité de faits et non des choses. Et puis, on va étudier les autres aphorismes. On va voir qu'ils vont nous écarter un petit peu de cette notion de choses, cette notion de faits. Mais on y reviendra. On aura toute une partie après sur le fait et les choses. Mais en tout cas, je voulais juste vous poser ici que ici déjà le 1.1, c'est révolutionnaire. C'est une révolution. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus l'habitude parce que la physique quantique et les nouvelles physiques nous ont habitués à voir le monde non plus comme un ensemble de choses, mais comme un ensemble de relations. Mais je vous rappelle que nous sommes au début des années 20, nous sommes en 1914, et qu'à ce moment-là, l'atomisme a le vent en poupe. Hein. On n'est pas du tout dans le monde d'aujourd'hui où on sait que le monde est composé de relations grâce à la physique quantique et tout ça. On n'en est pas encore là. Donc ici, le 1.1, c'est une petite révolution. On sous-estime l'aspect révolutionnaire de cette première proposition. Je prends vos questions. Des chevaliers du zodiaque à Démocrite, easy. Oui, c'est sûr. La vision de Wittgenstein des faits comme fondamentaux, définissant les objets par leurs interactions, n'est-il pas un système dual, donc quasi équivalent à une vision prenant les objets comme primaires et les faits dans leur interaction? Ça me fait penser particulièrement au graphe et à leur dual. Oui, alors évidemment, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, cette remarque est possible parce qu'on sait très bien que donc les objets se définissent par les relations qu'ils entretiennent entre eux, etc. Et donc, il y a toute une nouvelle physique qui étudie les objets comme non plus un ensemble d'atomes, mais comme les relations, en fait, qu'entretiennent, et notamment, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les physiques quantiques, etc., etc. Mais ce genre de proposition, il faut le remettre dans son contexte. On est en 1918, là. Et donc du coup, là, pour l'époque, ça va vraiment être une petite révolution. Donc voilà. On reparlera des interactions, des physiques interactionnistes et de tout cela peut-être plus loin quand on abordera justement qu'est-ce que c'est qu'un objet simple pour Ludwig Wittgenstein. Et là, à ce moment-là, on pourra voir si c'est équivalent ou pas. En tout cas, du point de vue de l'intuition, en 1918, dire que le monde est la totalité des faits et pas des objets, je peux te jurer que c'est une révolution. Et que oui, aujourd'hui peut-être on a l'intuition que c'est un peu équivalent, mais parce que on a étudié toutes ces questions et qu'en fait on sait c'est un peu l'œuf ou la poule, le fait ou l'objet, etc. Bien entendu, mais je peux te jurer que cette révolution-là, c'est une petite révolution copernicienne à l'époque. Donc, on continue avec la 1.1. 1. La 1.1.1. Celle qui est surlignée là. Le monde est déterminé par les faits et par ceci qu'ils sont tous les faits. Je lis la seconde parce que ça va nous permettre d'expliquer ça. Car la totalité, donc vous notez ici que le tout, c'est le tout qui est souligné ici, hein. Vous voyez qu'il est en italique dans le texte. Le monde est déterminé par les faits et par ceci qu'ils sont tous les faits. Car la totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi tout ce qui n'a pas lieu. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attends, il y a quelqu'un qui dit, ça me tue d'entendre son nom à chaque fois, vu qu'il y a un Ludwig von Wittgenstein dans la campagne de l'ennemi intérieur de Warhammer. Ah bah ça, je me souviens pas de ça. C'est marrant, pourtant je l'ai faite cette campagne. Ça m'aurait marqué ce truc-là. Eh ben, j'ai peut-être pas eu l'occasion de le rencontrer ce personnage. Et ou alors on en avait parlé, puis ça m'est sorti complètement du truc. Donc, alors, le monde est déterminé par les faits et par ceux qui sont tous les faits. Alors ça, c'est très important. La totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi ce qui n'a pas lieu. Donc, il faut bien comprendre que les faits, pour Wittgenstein, c'est uniquement ce qui est le cas. C'est uniquement ce qui est le cas, ce qui a lieu. Donc, par exemple, je vous donne un fait, par exemple, Nicolas Sarkozy est président de la France le 2 avril 2024. Voilà. Nicolas Sarkozy, le 2 avril 2024, est président de la France. Ah. On me dit que il n'est pas président. Attendez. Darmanin, Rachida Dati, Bruno Le Maire. Attendez. C'est qui? Emmanuel Macron? Non. Non, c'est pas moi. C'est qui ça? Un petit nain, un petit nain. Alors non, donc ça c'est pas bien, hein, ça c'est pas bien. C'est non, les comparer à cause de leur taille, c'est vraiment pas bien. Bon, alors donc, oui, évidemment, Nicolas Sarkozy n'est pas président de la France. Même si on croirait, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui est président de la France. C'est Emmanuel Macron qui est président de la France le 2 avril 2024, le jour où nous enregistrons ce live. Alors pourquoi cette petite boutade? Eh bien parce que vous voyez, à partir du moment où je dis que Emmanuel Macron est président de la France le 2 avril 2024, j'énonce un fait, c'est le cas, j'énonce un fait du monde. Et ce faisant, en énonçant ce fait, eh bien ça me permet d'éviter de dire tout un tas de faits, tout un tas de faits qui sont des faits négatifs de ce fait-là. Par exemple, que Nicolas Sarkozy est le président de la France. Non. Donc le fait Nicolas Sarkozy n'est pas le président de la France est vrai aussi, puisque c'est Emmanuel Macron le président de la France. Donc le fait Napoléon est le président de la France, c'est faux. Enfin, donc le Napoléon n'est pas le président de la France, c'est un fait. Donc vous voyez la totalité. Si je pouvais énoncer avec vous ce soir, un peu comme Chuck Norris qui est capable de compter jusqu'à l'infini deux fois, imaginez que je sois capable de vous donner. De vous donner la totalité des faits. Je vous énonce une liste de faits. Emmanuel Macron est le président de la France. Je ne sais pas, par exemple, je pourrais dire quoi comme fait aussi. Netanyahou est un nazi sans prépuce. Qu'est-ce que je pourrais dire comme fait. Je sais pas. Des trucs comme ça, par exemple. Donc, bah, Israël, par exemple, Israël a attaqué la bande de Gaza, par exemple. Israël a attaqué la bande de Gaza, c'est un fait. Du coup, en fait, ça, par exemple, ça me dit que là, par exemple, si je dis Israël a attaqué la bande de Gaza, eh bien, donc c'est un fait. Et donc, du coup, ça déclenche tout un tas de faits négatifs, du genre, par exemple, il n'est pas le cas que la bande de Gaza par exemple, a envahi Israël. Par exemple. Si je dis par exemple Israël a envahi la bande de Gaza, je sais par conséquence que la bande de Gaza n'a pas envahi Israël. Par exemple, voilà, un fait négatif. Mais par exemple, vous voyez, Israël a envahi la bande de Gaza n'est pas un phénomène, n'est pas un fait négatif de la Russie a envahi la bande de Gaza. Parce qu'il pourrait tout à fait se trouver que la bande de Gaza soit envahie à la fois par la Russie et par Israël. Par contre, dans la mesure où on sait qu'il n'y a qu'un seul président de France, dire Emmanuel Macron est le président de la France, ça déclenche aussitôt l'effet négatif suivant. Nicolas Sarkozy n'est pas le président de la France. Gérard Darmanin est encore heureux, n'est pas le président de la France. Bruno Le Maire est encore heureux, n'est pas le président de la France. Éric Zemmour est encore heureux, n'est pas le président de la France, etc., etc., etc. Et donc, du coup, Picsou. Effectivement, Bouddhi Live me dit Picsou également. Picsou n'est pas le président de la France, donc etc. Et donc on peut comme ça, parce qu'on connaît un fait véritable, on peut comme ça en décliner, en déduire, pardon, tout un tas de faits négatifs. Et donc, si à un moment donné on disposait de tous les faits positif, donc de tous les faits, ouais, positif. J'aime bien ces termes positif, négatif, parce que je pense qu'ils sont. C'est une image, hein, c'est une image. Hein. Mais ça vous permet comme ça de bien voir le truc. Eh bien, par contraste, en fait, par contraste, eh bien, comme on a tous les faits positifs, on voit par contraste tous les faits négatifs. Et donc, la totalité des faits détermine le monde qui a lieu, et il détermine aussi, par conséquence, le monde qui n'a pas lieu. Oh non, j'ai raté mon épisode mensuel de Lulu expliqué aux personnes âgées. Ah, je sais. Salut fille de prof. La pêche? Je sais pas. Apparemment, il y a eu. Mais oui, ça va, nickel. On va très très bien. Très très bien. Alors, quoi, ils ont envahi la bande à Picsou? Israël a envahi la bande à Picsou. Oui, d'accord, ok, merci. Alors, je vois l'idée de l'exemple, mais théoriquement, c'est possible que deux pays en guerre s'envahissent mutuellement. L'exemple des couleurs est peut-être plus clair. Si la pomme est rouge, elle n'est ni verte ni bleue. Alors, ça, c'est très intéressant. Arrakis, tu viens de nous énoncer un truc intéressant. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a certains faits qui ne permettent pas d'en déduire les faits négatifs qui vont avec. Par exemple, si je dis donc Israël a envahi la bande de Gaza, le fait négatif qui va avec, c'est Israël n'a pas envahi la bande de Gaza. C'est ça le fait négatif. Par contre, Israël a envahi la bande de Gaza et la Russie a envahi la bande de Gaza. Les deux, en fait, faits pourraient être vrais simultanément. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que ça traduit, ça, mon cher François? Ça traduit le fait que Israël a envahi la bande de Gaza n'est pas un fait du monde. Ça, alors là, attention, tous les journalistes se réveillent et me tombent dessus. En tout cas, il n'est pas un fait métaphysique pour Ludwig Wittgenstein, c'est-à-dire qu'il n'est pas un fait qui appartiendrait à cette liste de faits telle qu'elle serait énoncée dans le monde tel qu'il est le cas. C'est parce qu'en fait, en réalité, et c'est ce que j'avais expliqué à Daniel Schneiderman dans le podcast consacré aux faits, dans le podcast, pardon, consacré à l'interview de Daniel Schneiderman, j'avais fait un trade consacré aux faits après ce podcast, où je distinguais deux choses, l'événement et le fait. En réalité, l'invasion de la bande de Gaza par Israël, c'est un événement, ce n'est pas un fait. Voilà. Et donc ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il peut y avoir plusieurs faits conjoints ici, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas un fait, c'est un événement. Voilà, je te fais la réponse courte, hein, François, mais voilà. Donc, si j'ai tous les faits positifs, j'ai par le même coup tous les faits négatifs. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et c'est le point 1.12. C'est que, comme nous le dit Wittgenstein, la totalité des faits détermine ce qui a lieu et aussi tout ce qui n'a pas lieu. Et on en tire le 1.13, les faits dans l'espace logique sont le monde. Ah, ça c'est très 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 important chez Ludwig Wittgenstein. Alors justement, je sais pas si vous avez vu, je vous ai laissé un petit coin là, parce qu'en fait j'avais envie de dessiner des trucs. J'aime bien dessiner des trucs, vous savez que j'aime bien dessiner des trucs. Alors ici on nous dit les faits dans l'espace logique sont le monde. Alors regardez, je vais vous faire un petit dessin. Ça, ce sont des objets. D'accord, ce ne sont pas des testicules. Hein, vous voyez venir, je vous connais. Donc, ce sont... ce sont les objets A et les objets B. Ici, donc, on a un objet C. Tous ces objets ont des possibilités de relation. Par exemple, on sait que A peut être en relation avec C. C'est une possibilité de cet objet. Et on sait que A peut être en relation avec B. On sait aussi que B peut être en relation avec D. Tac, on va rajouter D. Toute ressemblance avec le symbole de sens serait purement fortuite, hein, pour... Donc A est en relation avec B. J'ai dessiné des petits ronds dans lesquels j'ai mis des objets, un objet A, un objet B, un objet D, un objet C. Ce sont des petites bulles. Et j'ai dessiné des petits pointillés qui vont entre A, qui sont entre A et B, entre A et C et entre B et D. Et vous constaterez qu'il n'y a pas de pointillés entre D et C. Ça veut dire que la possibilité d'une relation entre D et C est exclue par l'espace logique. La possibilité d'une relation entre B et C est également exclue de l'espace logique. De même, la relation entre A et D est ici exclue de l'espace logique. Seule une relation entre A et B, une relation entre B et D et une relation entre A et C est le monde logique. Donc ici, on a un monde, on a un espace logique. Un espace logique. Ouh là là, pas un monde logique, pas un monde logique. Chut, dites pas ça, ça va réveiller Miphos. Donc, on a ici un espace logique dans lequel A et B peuvent entrer en relation, B et D peuvent entrer en relation, A et C peuvent entrer en relation, mais B et C ne peuvent pas entrer en relation, A et D ne peuvent pas entrer en relation, et D et C ne peuvent pas entrer en relation. Je pense que vous avez compris ça très très bien. Bon, bah ça, c'est des possibilités. Et maintenant, attention, sous vos yeux ébahis, je vais montrer le monde tel qu'il est. Et voilà. Fin de tour. En fait, il n'existe dans le monde que deux relations. Ici, on a un tout petit monde dans lequel il n'existe que deux relations. Une relation entre A et B et une relation entre D et B. Autrement dit, A est en relation avec B, D est en relation avec B, B est en relation avec A et B est en relation avec D. Mais vous voyez ici que la relation qui était possible entre A et C n'est pas actualisée. Donc, ici, le monde, c'est la totalité des faits. Donc la totalité des faits, c'est les faits qui sont ici en noir, c'est-à-dire les traits pleins. Donc dans le monde, j'ai AB, j'ai BD. Et c'est tout. C'est tout, c'est ARB plus exactement, et BRD. C'est tout. Et la possibilité de AC existe, mais elle n'est pas le cas. Donc la totalité des faits ici, AB, BD, me donne tous les faits, à savoir que A est en relation avec B, que B est en relation avec D, mais il me donne aussi le fait négatif que A n'est pas en relation avec C. Donc la totalité des faits me donne également la totalité des faits négatifs. Donc vous voyez en fait que le monde est déterminé par les faits et par ceux-ci qui sont tous les faits, car la totalité des faits détermine ce qui a lieu ici, les traits noirs, et aussi ce qui n'a pas lieu. Ici, les traits qui sont restés en pointillés sans être noirs. D'accord? Et on voit que les faits dans l'espace logique sont le monde. Donc je pense que vous avez bien compris ici la différence entre l'espace logique et le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, il est tel qu'il est. Le monde, l'espace logique, c'est l'ensemble des mondes possibles. L'ensemble des mondes possibles. D'accord? Donc par exemple, il est possible que je sois en couple avec Arrakis. Il est possible que je sois en couple avec Fille de Prof. Il est possible que je sois en couple avec Damask. Il est possible que je sois en couple avec Boudilaï. Tous ces couples, toutes ces couples de relations sont possibles. Seulement, il se trouve que je suis monogame, que par ailleurs je suis hétérosexuel et marié. Donc voilà, je ne suis pas polyamoureux. Et donc, il se trouve que je suis en couple avec Flavie Briand. Et uniquement avec Flavie Briand. Mais il y a un monde possible dans lequel Live et moi-même, eh bien, ma foi, le soir. T'es jaloux, Brand. Ah, je savais que ça allait te faire venir. Je savais que ça allait te faire venir. Donc voilà, voyez l'idée. Voyez bien l'idée. C'est-à-dire que et donc toutes les relations dans le monde. Non mais rassurez-vous. Il y a plein de relations. Non mais arrêtez, arrêtez. Non, je t'ai plus. Non, t'es plus. Je fais des jaloux, je fais des jaloux. C'est horrible. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que tous les objets du monde pourraient être en relation avec d'autres objets dans le monde. Par exemple, la bière, par exemple, cette tasse de Naruto pourrait être dans ma cuisine, dans ma salle de bain, pourrait être à côté du PC de Jérôme Larré. Mais seulement voilà, cette tasse, publiée d'ailleurs par Abyscorp, hein, de mon ami Mathieu Baudouin, hein, voilà, je voilà. Eh bien, cette tasse, eh bien, il se trouve qu'elle est chez moi et qu'elle est en relation avec moi. D'ailleurs, elle va être bientôt en relation avec ma bouche. Hein. Je sais que vous êtes jaloux. Donc voilà, donc ici on a des objets qui sont, on a un objet qui entretient des relations avec tous les objets de l'univers. Parce qu'il est aussi situé à je sais pas combien d'années-lumière de Proxima du Centaure. Il faut imaginer quand même que chaque objet est en relation avec des milliards de milliards d'objets. Hein. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Hein. Donc la totalité des faits, les gars, on n'y est pas encore. Hein. Il nous faudrait au moins une super machine pour pouvoir avoir la totalité des faits. Personne ne fait ça. Donc voilà. Bon, je vous rappelle que c'est un des propos de sens, évidemment. On arrive à créer une machine dans laquelle la totalité des faits nous est révélée. Je vous laisse aller voir le trailer de Sens si vous voulez en savoir plus. Mais c'est justement le Wittgenstein et l'auteur qui a inspiré Sens. Donc vous savez maintenant pourquoi. Alors, donc, rapidement, donc, je pense que vous avez compris cette notion d'espace logique et cette notion de fait. Donc si on a tous les faits, par contraste, on a tous les faits négatif, et donc on se rend compte, on voit peu à peu l'espace logique apparaître. Mais c'est pas un événement, le rapport entre ta tasse et ta bouche? Si, tout à fait, Jérôme, c'est parfaitement un événement, absolument. Et en réalité, le monde tel que Wittgenstein le décrit, nous, on ne peut pas le connaître en tant qu'humain. On ne peut pas le connaître parce que tous les objets qui nous entourent sont des objets phénoménologiques qui sont en réalité plutôt des événements que des objets simples tels que le pense la métaphysique de Ludwig Wittgenstein. Il faut imaginer que Wittgenstein, en fait, dans le Tractatus, ne dit pas ce que sont les objets simples du monde et il ne dit pas ce que sont les relations du monde. Il dit qu'il est nécessaire que le langage... Enfin, en fait, que cette vision du monde est préjugée et présupposée par le langage que les êtres humains emploient. C'est-à-dire qu'en fait, cette tasse, j'en fais un objet simple. J'en fais un objet simple de la même manière que moi, je fais de moi un petit A, un petit B, un objet simple. Et j'imagine qu'il existe une relation entre moi et cette tasse. Mais quand je zoome encore plus sur la tasse, je vois des atomes qui sont en contact avec les atomes, par exemple, de mes lèvres. Je vois des interactions bioélectriques, biomécaniques, des interactions, par exemple, à échelle de la physique quantique, avec, bien sûr, les énergies électromagnétiques, etc., etc. Et donc, Wittgenstein ne dit pas ce qu'est le monde. Il ne remplace pas les physiciens, si tu veux, Jérôme. Ce qu'il dit, c'est le monde, selon le langage, présuppose... Enfin, comment dire ? Le langage, pardon, présuppose que le monde soit composé d'objets qui entrent en relation. Mais il ne dit pas quels sont ces objets et quelles sont ces relations. Par contre, comme tu viens de le signaler dans le chat, c'est un indice quand, une interaction entre deux objets tient plus de l'événement que du fait... Bah voilà, je sais que je pourrais décomposer cette tasse en une anse, de l'eau à l'intérieur, de la peinture noire, des marques, etc. Et d'ailleurs, si tu as lu le Maelstrom, et je sais que tu l'as lu, l'article, le premier article que j'ai écrit s'appelle la réification. Pour Wittgenstein, le phénomène de réification, c'est le fait de faire d'un objet un objet simple. Donc là, quand je dis la tasse entre relation avec ma bouche, effectivement, je fais deux objets simples, un premier objet simple qui est la table et un deuxième objet simple qui est la bouche. Voilà. Et en jeu de rôle, on met en relation aussi deux objets, et c'est pour ça que la réification était une notion très importante pour moi dans la création de JDR. La relation existe en soi, ou est-ce qu'il faut la constater pour qu'elle soit le cas, nous dit Fideprof. Non, non. La relation existe en cas, il y a la relation entre des objets simples, selon Wittgenstein. Donc, j'espère que vous avez compris, grâce à la question de Jérôme, grâce à la question de Brand, que, en fait, les objets dont il est question dans le Tractatus, personne n'en a fait l'expérience. Personne ne sait, et surtout pas Wittgenstein, ne sait ce que sont ces objets simples et ce que sont ces relations. Ce que dit Wittgenstein, c'est que le langage procède en créant des objets et en mettant ces objets en relation. Mais il ne dit pas que le monde est comme ça. Il ne dit pas que métaphysiquement le monde est comme ça. Il dit, il est né, le langage nous pousse à voir le monde comme ça. Il ne dit pas que le monde est comme ça. Petit 1. Petit 2, si le monde est tel que Wittgenstein le décrit, c'est une possibilité, on ne sait jamais, peut-être que notre langage peut-être qu'on est des dieux et qu'en fait notre langage est vraiment fait pour être en adéquation avec le monde, hein, qui sait, qui sait. Peut-être que c'est nous qui avons créé le monde qui nous entoure. Il y a des philosophies qui le pensent. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces relations n'ont pas besoin d'être expérimentées pour exister. Les relations qui composent le monde des objets simples, je n'en ai jamais fait l'expérience empirique. Jamais, 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 jamais. Jamais je n'ai vu des relations simples, jamais je n'ai vu des objets simples, pas plus que je n'ai vu des atomes, pas plus que je n'ai vu des relations entre des objets quantiques, entre des électrons et... enfin, entre des électrons. Bon. Donc, du coup, évidemment, ces objets simples sont inconnaissables. Attention, hein, on n'est pas dans une... ils sont inconnaissables. C'est-à-dire que dans l'absolu, si le monde est composé comme Wittgenstein le pense, ils sont inconnaissables. Mais encore une fois, notre langage présuppose que le monde est organisé comme ça. Ce que dit Wittgenstein, c'est pas que le monde est comme ça. Ce que dit Wittgenstein, c'est que notre langage nous fait voir le monde comme ça. J'espère que vous avez bien compris. Donc, la relation existe-t-elle en soi, ou est-ce qu'il faut la constater pour qu'elle soit le cas? Eh bien, ma foi, on la constate à travers le langage, mais par contre, on n'a jamais prouvé avec un microscope que les objets étaient tels que Wittgenstein les imagine. Est-ce que ça va là-dessus? Je voudrais avoir votre confirmation. J'attends un petit peu s'il y a d'autres questions sur ce sujet. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. C'est un point crucial. Si vous avez compris ça, franchement, je pense que là, on est au cœur on est déjà... Voilà, on est... Non, il faut pas dire ça. On n'est pas au cœur du traité. Mais si vous comprenez ça, vous allez tout comprendre, en fait. Ça va être la pelote sur laquelle tirer. On n'est pas au cœur du traité. Il y a beaucoup de... Il y a une interro la semaine prochaine, les gens. Si vous voulez, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a compris ça, cette histoire d'objets simples, de relations, de définition du monde, il y a eu une séparation entre deux manières de lire le Tractatus. La première manière de lire le Tractatus, c'est d'y voir un traité de métaphysique. C'est-à-dire d'imaginer que ce que dit Wittgenstein, c'est que le monde est comme ça. Il est comme ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire, c'est eu des interactions entre des objets. Ça, c'est une première vision des choses, une vision métaphysique du Tractatus. Et donc de dire le monde que la physique doit rechercher, donc le monde que M. Einstein devait rechercher à cette époque-là, le monde que les physiciens doivent rechercher à cette époque-là, eh bien, il doit avoir cette tronche-là, il doit ressembler à ça. Et c'est ça le monde tel qu'il est. Et donc ça, c'est une première vision. Et cette vision, elle a été défendue par un groupe de logiciens, c'est le groupe qui s'appelle le Cercle de Vienne. C'est une vision réaliste du Tractatus, c'est une façon de voir le traité comme un traité de métaphysique. Et Wittgenstein, lorsqu'il a été invité par le Cercle de Vienne, les a complètement bâchés en fait. Au lieu de leur expliquer le traité, eh bien en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a récité un poème. Et cette attitude de Wittgenstein vis-à-vis du Cercle de Vienne montre que le Cercle de Vienne s'est trompé d'interprétation. Ils se sont trompés en croyant voir dans le traité un traité de physique de très basse échelle, alors qu'en réalité, ce que dit Wittgenstein, ce n'est pas que le monde est comme ça. Ce qu'il dit, c'est que le langage doit être comme ça pour pouvoir décrire le monde. Et c'est bien différent. Alors, je lis vos questions. Il présente un modèle du monde qui correspond à la manière dont le langage a de le traiter, afin de mieux montrer que la manière dont le langage traite le monde amène à des contradictions. Oui, c'est exactement ça, François. Ça va être le but du traité, ça va être un des buts du traité. On verra que ça va encore plus loin que ça. Mais effectivement, c'est un élément du traité, effectivement. Olcha nous dit, maintenant que deviennent les cercles de Vienne. Je t'ai pas vu venir celle-là. Effectivement, le cercle de Vienne, ma foi, je ne sais pas s'il y a des héritiers du cercle de Vienne encore aujourd'hui, évidemment. Mais je ne sais pas si... Maintenant, on sait que l'interprétation, évidemment, du cercle de Vienne est mauvaise. L'interprétation du cercle de Vienne est mauvaise. Le langage de Wittgenstein ne rend pas son objet si simple que ça. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Beaucoup de personnes se sont arrêtées déjà à ses premiers aphorismes, et on les comprend. Moi, si je suis capable de vous décrire en fait ces aphorismes de cette façon-là, c'est parce que j'ai lu la suite. Donc je peux vous expliquer en fait. Au départ, moi, quand j'ai lu le traité de Dieu, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Et en fait, c'est à force de le relire qu'on dit, ah oui, ce point-là fait référence à ce point-là. Ah oui, là il dit ça, là il fait ça. Mais si t'as pas un passeur pour t'expliquer, en fait, le Tractatus, c'est le Dark Souls de la philosophie en fait. C'est le traité en fait. Si t'as pas un passeur qui t'aide à te dire ou enfin si tu hard, si tu hard, si tu tryhardes pas le livre en fait comme un ouf et voyant chaque aphorisme comme un boss indépassable et tout ça et que tu fais des allers-retours, si tu fais pas des allers-retours dans la fiction, c'est un vrai labyrinthe si tu veux. Donc si tu fais pas des allers-retours dans la fiction, tu comprendras jamais le Tractatus. Heureusement, il y a des gens par exemple comme Mathieu Marion dont j'ai le livre ici là, qui permettent en fait de rentrer dans le Tractatus très facilement. Donc ça, c'est un bon passeur, Mathieu Marion. T'as des gens aussi comme David Pierce. Voilà, ce sont tous les auteurs en fait qui m'ont permis de comprendre un petit peu mieux. J'ai apporté aussi le livre d'Armstrong, donc qui s'appelle Combinatorial Theory of Possibility. Désolé, hein, je suis très mauvais en. Voilà, tout ça, c'est des livres en fait qui parlent du Tractatus et qui aident à mieux comprendre. Et puis j'ai eu un passeur qui s'appelle Pascal Ludwig, qui est donc professeur de philosophie et qui m'a permis en fait de rentrer dans les premiers aphorismes du Tractatus et de pouvoir lire. Mais le meilleur, un des passages secrets aussi vers le Tractatus, c'est les carnets 14-16 que je vous ai montrés la dernière fois. Donc c'est vrai que le langage de Wittgenstein est compliqué, vraiment je le reconnais, mais je trouve vraiment. Jérôme, pour répondre à ta critique, finalement, qui est une critique sur la pédagogie du Tractatus, que je partage complètement, ce livre est infâme en fait, c'est absolument pas pédagogique du tout. Ouais, mais vraiment, il en vaut la chandelle, et je te jure, pour le jeu de rôle, c'est un truc de malade. Ce qu'il a à nous apprendre en fait de comment on construit des objets en fait avec le langage, eh bien nous. Pour nous, en fait, rôlistes, qui passons notre temps à créer du contenu fictionnel à l'aide du langage, c'est ultra précieux. Parce que s'il est certain que la métaphysique de la réalité, pardon, s'il est incertain que la métaphysique de la réalité corresponde à la vision du langage de Wittgenstein, il est certain en revanche que la métaphysique des parties de jeu de rôle correspond absolument à ce que Wittgenstein décrit du langage. C'est-à-dire que oui, le réel, non, Wittgenstein n'a pas écrit un traité sur le monde réel. Non, le Tractatus ne vous donnera pas la vérité sur l'essence du monde. Mais par contre, le Tractatus va vous permettre de mieux comprendre la nature des objets que vous créez au cours d'une partie de jeu de rôle. Et c'est pour ça en fait que le Tractatus est un livre, un ouvrage de philosophie qu'il nous faut comprendre en tant que créateur de jeu de rôle, enfin que passionné de théorie de jeu de rôle pour Jérôme et pour moi. À minima, parce que je sais que vous êtes nombreux, nombreuses dans ce chat à être passionnés de théorie de jeu de rôle aussi, parce que vous suivez la cellule depuis longtemps, j'en doute pas. Mais voilà, moi je pense que vraiment Wittgenstein, c'est un auteur incroyable pour notre champ de recherche. Et donc ça vaut le coup d'y prendre, de passer un petit peu de temps sur ces notions-là. Perso, j'ai trouvé le webcomic existential comique très bon pour vulgariser les rapports entre Wittgenstein et le cercle de Vienne, entre autres. Ok, je l'ai pas vu, je vous laisse. Et puis c'est très drôle, nous dit François. Eh ben écoute, pas de problème. Je vous invite à aller regarder ça. Du coup, je fais entièrement confiance à François pour tout ça. Il travaille sur Wittgenstein avec moi depuis longtemps, à travers Sens et tout. Donc, je pense qu'il sait de quoi il parle. Eh bien, c'est pas mal hein, ce qu'on a vu là ce soir. Les faits dans l'espace logique sont le monde. Donc là, je pense que vous avez compris. Le monde se décompose en faits. Bon, là, finalement, le monde se décompose en faits et le monde est tout ce qui a lieu. C'est quasiment la même proposition. D'accord? C'est juste que dans un cas, il dit le monde est tout ce qui a lieu, donc le monde est la totalité des faits. Et dans un autre, en fait, il dit si je veux découper en fait le monde, si je veux le morceler, toujours pareil, hein, il parle du monde, évidemment, tel qu'il est décrit par le langage. Salut Antoine. C'est vrai que vous vous appelez tous Antoine. Salut Ashland, ça fait très plaisir. Bah dis donc, mais c'est trop cool, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir de voir tout ça. C'est parce que t'es convaincu que j'écoute. Mais c'est vrai que de se dire qu'il faut trois livres d'interprétation et des carnets pour comprendre est très étrange pour moi. Moi, j'arrête de t'interrompre. Oui, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Ce qui s'énonce bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Il y a no soucis là-dessus. Et à vrai dire, Jérôme, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le Tractatus pour faire des parties de jeu de rôle et pour comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre dans le jeu de rôle. Attention, je dis pas ça non plus. Mais je pense que vraiment, c'est un bon outillage. C'est une bonne. C'est, tu vois, un petit peu comme toi. T'as fait des études de cinéma et ça t'a beaucoup aidé le vocabulaire du cinéma pour comprendre en fait les mécaniques et les choses qui se jouaient dans le jeu de rôle. Et ben je trouve que Wittgenstein apporte aussi en fait son lot d'outils intéressants. Et après j'avoue que je comprends parfaitement que ça puisse saouler de prendre autant de temps pour le faire. Et c'est justement pour ça que je fais des petits live Twitch avec vous. Ça permet de poser des questions, d'approfondir en fait les choses. J'espère que être un petit peu plus pédagogique que le Tractatus et donc de vous aider à y voir un petit peu plus clair et de faire la pédagogie de tout ça. J'espère y arriver modestement, mais j'aimerais bien y arriver parce que vraiment il y a des choses à creuser. Les faits dans l'espace logique sont dans un moment. Le monde se décompose en faits. Alors, donc là, on va rentrer dans le 1.2. Dans la décomposition du monde, et on va voir en fait que là, Wittgenstein va zoomer complètement sur le fait. On va rentrer en fait dans l'analyse détaillée du fait. Là, on va être confronté à des difficultés incroyables. Vous allez voir les phrases, il y a des phrases parfois, tu te dis, mais je les comprendrai jamais ces putains de phrases, quoi. Je dis, c'est du Dark Souls, quoi. J'y arriverai jamais, quoi. Et en fait, vous allez voir petit à petit, grâce aux explications que je vais vous donner, vous allez réussir à vous en sortir. Salut gros, ça va la pêche, chemise, alias Adrien, qui était avec moi ce week-end. On a passé un super week-end avec Adrien et Natacha. On n'a pas enregistré de podcast, bah non, parce qu'on s'est occupé des enfants, on a préféré jouer plutôt que d'enregistrer des podcasts. Honte à nous, mais voilà, c'était vraiment trop cool, on a passé un super week-end de Pâques en famille. C'était génialissime. Ça me fait plaisir de te voir sur ce chat, évidemment, gros. Voilà, et t'as perdu au jeu, parce que fallait bien. Donc, on va rentrer, donc comme je vous l'ai dit, donc on a vu le monde. Le monde et à l'intérieur du monde, les faits. Et bien maintenant, on va décomposer les faits, on va rentrer dans les faits, on va zoomer dans les faits jusqu'à voir les petits objets qui les composent, et ça va être compliqué. Donc le monde se décompose en faits. Certains aiment le mot dissoudre ici. Le monde se dissout en fait. Je me souviens comme ça qu'il y avait une ancienne traduction française qui avait été faite et que le traducteur avait mis le monde se dissout en fait. Moi j'aime assez je sais que décomposer c'est bien mieux hein, en termes de traduction, mais j'aime assez le terme dissoudre parce que là on va vraiment faire un travail comme ça de presque de chimique, de décantation en fait du fait. Donc pourquoi tu dis tiens 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 fille de prof dissoudre Qu'est-ce que c'est, pourquoi ça t'amuse? Tu m'écris ça tout de suite. Quelque chose peut isolément avoir lieu et ne pas avoir lieu, et tout le reste demeurer inchangé. Alors ça, c'est capital. Tout à l'heure, je vous ai dit, il existe une différence entre un fait et un événement. Ah, fille de prof nous dit dissoudre, ça fait référence à l'acide. Ah, d'accord, ok, très intéressant. Ok, très bien. Je comprends pourquoi ça te fait sourire. C'est une référence à sens à nouveau. Alors, quelque chose peut isolément avoir lieu et ne pas avoir lieu, et tout le reste demeurer inchangé. Comme je vous l'ai dit, il existe une différence entre le fait et l'événement. Et l'une de ces différences majeures, c'est celle-ci. C'est le fait que si une chose peut avoir lieu et que cela ne change pas le reste du monde, eh bien, on sait qu'on n'a pas affaire à faire, on n'a pas affaire là à un fait. Par exemple, le fait que cette tasse soit dans ma cuisine ou dans ma main. Ça ne change pas le reste du monde. Fondamentalement, je pense que ça n'a pas d'impact sur le reste du monde. Néanmoins, si on voit cette tasse comme étant en relation avec tous les objets du monde, c'est-à-dire à la fois à. Imaginons par exemple qu'on veuille situer géométriquement cette tasse dans l'espace physique. On va dire par exemple, cette tasse est à X mètres de la bibliothèque de gauche derrière moi, puis à X mètres de cette bibliothèque de droite derrière moi, puis à X mètres de la carte derrière moi, puis à X mètres de mon micro, puis à X mètres de mes lunettes, etc. Bon, bah, du coup, dès que je la déplace, je déplace aussi tous les mètres, et donc je rends faux en fait tous les faits que je viens d'énoncer. D'accord? Donc, en un sens, le fait que je dise, bah, cette tasse, si elle change de situation spatiale, ça ne change pas fondamentalement les autres faits dans le monde, bah, c'est pas vrai. Parce que la situation spatiale de la tasse va changer toutes ses relations avec le monde. Ok? Bon, ça nous prouve que, par exemple, la notion métrique, parce qu'elle est une notion mathématique, en réalité, produit des faits qui sont en accord avec la notion de fait telle qu'elle est décrite dans le Tractatus. Mais quand un élément peut, quand il peut être le cas, quand deux éléments sont interchangeables et que ça ne change pas le reste du monde, bah ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un fait, on a affaire à un événement. Parce que un fait, en fait, non, c'est l'inverse. Putain, je raconte de la merde. Putain, je raconte de la merde. Putain, ça m'épuise. Ce truc-là, en fait, il faudrait que je puisse dessiner pour vous le montrer. C'est tellement difficile. Comment je vais procéder pour expliquer ça et être très clair? Quelque chose peut isolément avoir lieu et ne pas avoir lieu, et tout le reste demeurer inchangé. L'idée, c'est que, regardez, en fait, je vais reprendre mon schéma plus haut. Dans l'espace logique des faits, si B et D n'étaient pas en relation, ça ne changerait pas fondamentalement la nature de l'espace logique. A pourrait toujours être en relation avec B, B pourrait toujours être en relation avec D, D ne pourrait toujours pas être en relation avec C, etc. C'est-à-dire que là, le fait qu'un fait ait lieu ou qu'il n'ait pas lieu, ça ne change pas fondamentalement les interactions entre les autres objets dans le monde. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et en fait, cet élément-là, il va nous permettre de savoir si un fait est un fait ou un événement. Parce que, en réalité, si je change un élément et que ça change, si en changeant un élément, ça change tout le reste de l'espace logique, ça veut dire que j'avais affaire à un événement et pas à un fait, en gros. Est-ce que ça va, ça? Alors, donc, qu'est-ce que tu me dis? Imagine. Putain, j'arrive pas à lire. Imagine être capable de changer des faits avec des pouvoirs qu'on appellera des ombre-pouvoirs, pour faire simple. Eh bien, hors du domaine d'action de son pouvoir, les objets concernés et eux seuls, tout reste comme si le pouvoir n'avait pas eu lieu. Oui, c'est ça. Exactement. C'est très bien. Ça, c'est un bon exemple. Imaginons par exemple qu'on ait un pouvoir magique qui nous permette de changer un fait, selon Wittgenstein. Eh bien, si je change un fait, quand je change le fait, exactement, c'est très très bien, c'est un très très bon exemple. Imaginons que j'ai un pouvoir qui me permette de changer un fait, et donc de claquer des doigts, et d'un coup, par exemple, je change la relation entre B et D, et je change la relation entre B et D, et je transforme par exemple la relation entre. Non, non, j'enlève la relation entre B et D, tout simplement. Je claque des doigts et j'enlève la relation entre. Eh bien, ce n'est pas parce que j'enlève la relation entre B et D que j'enlève la relation entre A et B. Et si par hasard, en enlevant la relation entre B et D, ça cause. Imaginons par exemple que j'imagine que A, B et D soient des objets. Si j'enlevais la relation entre D et B et que je me rends compte que ça cause aussi un changement de relation entre A et B, eh ben je sais que A, B et D et C ne sont pas des objets simples et que le fait BRD et AR et que les faits ARB et DRB ne sont pas des faits. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais oui, l'exemple de François est très très bon. Si un fait, en fait, je peux claquer des doigts. Et quand je claque des doigts, eh ben, ça change rien. Et donc, ça vous montre à tel point, les choses que l'on aperçoit dans la réalité ne sont pas des faits et sont des événements. Parce que par exemple, imaginons par exemple que je prenne la pluie, par exemple. En Bretagne, il pleut tout le temps. Bon, vous le savez. Bon, je claque des doigts et j'arrête de pleuvoir. À votre avis, est-ce que j'ai touché à un fait ou pas? Bah, évidemment non. J'ai arrêté un événement parce que le fait qu'il arrête de pleuvoir, ça cause des tas de trucs. Ça fait que du coup, il y a des plantes qui vont dessécher, ça fait que du coup, il y a des trucs qui devaient être mouillés qui ne le seront pas, etc., etc. Nous, on vit dans un espace qui n'est pas l'espace logique de Wittgenstein et qui n'est pas un espace des faits de Wittgenstein. On vit dans un espace qui est rempli d'événements. Et la preuve de ça, c'est la notion de causalité. Si quelque chose est causé par autre chose, alors, Cette chose n'est pas un fait mais un événement. D'accord? Ça, c'est très important. La notion de causalité, les événements sont des éléments qui sont causés les uns les autres. Les faits de Wittgenstein ne sont les causes d'aucun autre fait et ne peuvent être causes d'aucun autre fait parce que les faits ne sont pas des événements. J'espère que vous avez compris cet élément. Ceci dit, c'est pas très grave. Si vous n'avez pas compris ça, ça ne va pas vous empêcher de comprendre le reste. Hein. C'est pas spécialement. Je comprends ce qui est un fait, du coup. Ok. Par extension. Ah non, tu comprends pas ce qui est un fait, du coup. Ok, oui, alors c'est totalement normal parce qu'en fait, il est extrêmement difficile, Jérôme, d'avoir. Ça m'étonnait aussi, c'est pour ça que je lisais ta phrase un peu surpris, parce que généralement, ce qu'on comprend, c'est l'événement. Parce que l'événement, on en fait l'expérience. Donc, c'est facile de comprendre un événement. Par exemple, Romaric boit un coup, c'est un événement, ça se comprend bien, on a des exemples, etc. Et du coup, c'est normal que tu comprennes pas du tout ce que c'est un fait. C'est parfaitement normal. Parce que tant qu'on n'a pas compris en fait le sens que cette proposition avait dans le cadre du langage, c'est compliqué. En fait, un fait, c'est. Je vais vous le dire maintenant, comme ça va vous aider, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de la lecture. Le fait, en fait, c'est une condition. C'est le truc. On va faire ça plus simple. Le fait, en fait, chez Wittgenstein, c'est le truc qui rend vrai les énoncés. Par exemple, si je dis il pleut toujours en Bretagne, il y a un fait, il pleut toujours en Bretagne, qui rend vrai cet énoncé. Alors tu vas me dire, bah non, c'est un événement, il pleut toujours en Bretagne, etc. Oui, mais dans le langage, il passe à ce moment-là, les objets simples, c'est la Bretagne, il pleut. La relation entre la pluie et la Bretagne, mise en place par le verbe il pleut, en fait, dans le cadre de la phrase, la Bretagne devient un objet simple, la pluie devient un objet simple que je mets en relation, et je fais d'un événement un fait. Quand je dis il pleut toujours en Bretagne, je fais d'un événement un fait. Quand je dis Emmanuel Macron est président de la France à 22h35, le 2 avril 2024, je fais d'un événement un fait. Et donc, c'est toujours qui en fait un fait. C'est toujours qui en fait un fait. Non, toujours, c'est ce qui en fait une loi. Alors, non, si. Alors, ok. Donc, prends le cas d'Emmanuel Macron, si c'est pas clair, Jérôme. Donc, imagine, par exemple, Emmanuel Macron à 22h36, le 2 avril 2024, Emmanuel Macron est président de la France. Il n'y a pas de toujours dans cette phrase. J'ai transformé Emmanuel Macron en objet simple, la France en objet simple, et pourtant Dieu sait si on sait que la France c'est pas simple, hein. Et Dieu sait si on sait qu'Emmanuel Macron c'est pas simple non plus. Mais j'ai transformé tous ces objets en objets simples pour en faire un fait. Et effectivement, dans le monde, je regarde des événements et je vois des événements en fait qui provoquent une image qui rendent vrai la proposition. Emmanuel Macron est le président de la France. Et en fait, un fait, encore une fois, les faits n'existent pas dans la nature. Oubliez l'idée d'apercevoir un fait dans la nature, vous ne pouvez pas avoir un fait. Par contre, vous pouvez constituer des faits avec le langage en disant par exemple x égale 0. Par exemple, je ne sais pas, x égale 0, bah, vous faites un fait, x égale 0, et on peut le vérifier. Évidemment, x n'est pas toujours égal à 0, mais peu importe. Imaginons par exemple qu'on résolve une équation et qu'à la fin on mette x égale 0. On a fait deux objets simples, x et 0, et on a mis une relation entre eux qui est les relations d'équivalence égales. On verra que tous ces symboles x, 0 et tout ça ont un statut particulier dans le Tractatus, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Les mathématiques étant un générateur d'objets simples, en fait, très très facile à manipuler. Donc voilà, on fait des événements des faits en fait. On transforme les événements en faits pour en faire des objets du langage qui viennent rendre vraies nos propositions. Ou au contraire, les rendre fausses. Voilà. L'événement, il pleut tout le temps en Bretagne. Le fait, il ne pleut que sur les cons. En Bretagne, chez moi. Ah, ça y est, j'ai pigé. L'effet qu'on détermine avec le langage et l'effet de Wittgenstein, c'est pas la même chose. Oui, en général, en fait, quand on parle de faits dans le langage quotidien, on parle des événements, en fait. Alors que les faits que le langage suppose dans le Tractatus, la notion de fait, en fait, recoupe un champ très très particulier. Et c'est un faux ami, en fait, cette notion de fait. Parce que pour nous, en fait, les faits, c'est des événements. Quand vous écoutez, par exemple, l'interview de Daniel Schneiderman sur la manière dont il dit que voilà, les journalistes doivent traiter des faits, en fait, il ne parle pas du tout des faits au sens de Wittgenstein. Il parle vraiment des événements. Et cette notion de fait, en fait, a été soit déformée par Wittgenstein, soit déformée par nous-mêmes, en fait. Et par nos incompréhensions au sujet du Tractatus. Ok, ça va? On continue? C'est bon? Est-ce que ça... Bon, et même si ça va pas, même s'il y a des moments où vous pigez pas tout, ça va peut-être venir. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Franchement, j'y réponds avec grand plaisir. Hein. Même Jérôme, n'hésite pas à m'interrompre. Il n'y a aucun souci. Et c'est totalement normal à ce stade de se dire, mais le fait, c'est complètement fumeux, en fait. Putain! Si c'est un truc que je peux pas observer, si c'est un truc qui n'existe pas dans le monde, mais pourquoi je vais postuler l'existence d'un putain de truc qui n'existe pas dans le monde? Et c'est vrai que quand on est, enfin, je pense que Jérôme est assez empirique, assez empiriste en fait dans sa vision des choses. Et je pense que y a un vrai côté, putain, si je peux pas le voir, ça sert à quoi d'en parler, tu vois? Il y a un côté, ça fait chier quoi. Mais en fait, on va voir que grâce à cette notion de fait qui est dans le langage. Eh bien, c'est ça qui va nous permettre de faire du jeu de rôle, en fait, par exemple. Parce que un fait égale un postulat, c'est compliqué ça, parce que un postulat est un élément d'un raisonnement. Le fait n'est pas forcément un événement, un élément d'un raisonnement. Mais je vois ce que tu veux dire néanmoins. Je vois ton intuition. C'est dit que c'est un truc qu'on pose, que le langage pose. Oui, en fait, le fait est un postulat linguistique, si tu veux. C'est un truc que le langage pose pour exister. Alors, pourquoi je te dis que c'est important pour le jeu de rôle? Parce que, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et je le dis depuis des années, hein, puisque vous savez, hein, si vous êtes lecteur de sens, vous savez très très bien que c'est une des propositions principales de sens. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on y croit à la fiction qu'on se raconte dans le jeu de rôle? Eh bien, c'est parce qu'en fait, grâce au langage, on parle en fait d'un monde imaginaire comme on parlerait du vrai. Dans les deux cas, en fait, on pose des éléments. Quand, par exemple, si je dis, je sais pas, Narnia est dirigé par Aslan, par exemple, je sais pas. Non, Aslan est le dieu de Narnia. Très très bien. Aslan est le dieu de Narnia. Mettons, on dit ça. Bon. Eh bien, en fait, je présente un fait. Et je le présente de la même manière que le langage nous fait présenter les faits dans la réalité. Si je dis Emmanuel Macron, non. J'ai pas envie de comparer Emmanuel Macron à Aslan, ça me fait chier. C'est pas un dieu, ce mec, c'est une pauvre merde. Donc on va plutôt dire, bah tiens, très bien. Mahomet est le prophète de l'islam. Voilà, Mahomet est le prophète de l'islam. Ce fait, en fait, il est très intéressant. En plus, c'est un super fait. Alors ça, vraiment, pour expliquer la théorie de Wittgenstein, c'est génial. Donc j'ai créé un objet simple qui est Mahomet, j'ai créé l'islam qui est un autre objet simple, je les ai mis en relation par le fait d'être le prophète de. Et on aurait pu tout à fait dire que Jésus-Christ était le prophète de la religion chrétienne, voilà, de la même manière. Donc ça veut dire qu'on a bien un comment dire une relation entre deux objets, un objet simple et le fait d'être prophète avec. Donc on a la relation être le prophète de, et on a deux objets simples qui rentrent en considération. On pourrait tout à fait imaginer la phrase Mahomet est le prophète de la religion chrétienne, de la même manière Jésus est le prophète de la religion islamique musulmane, par exemple. On pourrait tout à fait dire ça. Mais on va plutôt prendre l'exemple Mohammed est le prophète de l'islam. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un fait que vous tenez tous pour vrai. Et ça, c'est intéressant parce que existe-t-il un événement qui rende vrai le fait Mahomet est le prophète de l'islam? Très certainement, parce qu'il existe des historiens qui ont travaillé sur le personnage de Mahomet, sur la religion islamique. Mais existe-t-il un fait qui rende vrai, par exemple, la notion Jésus-Christ est le prophète de la religion chrétienne? Là, c'est beaucoup plus contestable. Les preuves de l'existence de Jésus-Christ sont nettement moindres, hein, que celles de Mahomet. Et donc, vous voyez en fait que parfois, on fait des faits, d'événements qui sont douteux, qui n'existent, qui n'ont pas forcément existé. Et en fait, ça c'est cool parce que ça veut dire que le langage et les événements sont distincts. Ils sont distincts parce que l'un produit des faits à travers des propositions et la réalité, elle, produit des événements qui vont être décrits par des historiens, etc. Et puis après, l'événement, c'est l'objet simple du journaliste ou de l'historien, mais ce n'est pas l'objet simple de Wittgenstein ici. Donc, vous avez compris que à partir du moment où le langage produit des faits à travers des propositions, par exemple la bière est sur la table, ou Mahomet est le prophète de l'islam, on produit en fait des faits de la même manière, et en fait derrière les faits, on imagine, et le mot imaginer va être repris par Wittgenstein, on verra que c'est exactement ça, on imagine des images, et on imagine des images qui font événement en fait. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire du jeu de rôle. C'est parce qu'on est capable de produire avec le langage des faits qui font image. Qui du coup nous donne à voir un événement, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, en fait, de toute façon, le langage produit des faits qui vont nous permettre de voir l'événement derrière. Et donc, dans ce qu'on fait quand on fait une partie de jeu de rôle, c'est qu'on énonce des faits concernant un univers qui n'existe pas. Donc, par exemple, si je fais le jeu de rôle Narnia et que je dis Aslan est le dieu de Narnia, cette proposition est vraie dans le cadre du jeu. Elle est vraie dans le cadre du jeu. Et c'est un fait dans le cadre du jeu. Alors que si je dis Aslan est un dieu et le dieu de Narnia, et que je veux en faire un événement, là, les historiens vont me tomber dessus. Ils vont me dire d'abord c'est quoi cet objet Narnia, c'est très bizarre. Et ensuite, voilà. Par contre, les littéraires ne me tomberont pas dessus parce que pour eux, pour les littéraires, ce qui existe, ce sont des fictions. Leur objet simple à eux, ce sont des fictions. Et donc, dans les fictions qu'ils traitent, oui, Aslan est le dieu de Narnia, Narnia étant l'univers de, etc., etc. Est-ce que vous comprenez tout ça? J'espère que ça va. J'espère que je ne vous perds pas. J'ai très peur. Voilà. Donc, on a fini la notion de monde là ensemble. Vous avez vu, on a vu, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un monde? Un monde, c'est la totalité des faits. Donc, par exemple, on peut tout à fait décrire avec ça des mondes imaginaires, hein, les gars. Il y a pas, il ne dit pas le monde. Hein, il nous dit, alors, ici, bien sûr, Wittgenstein prétend décrire le monde réel. Mais un monde, c'est pas forcément le monde réel. Ça peut être tout à fait le monde de Narnia. Ça peut être le monde de. Ça peut être Rokugan, le monde de L5R. Ça peut être le monde de Warhammer. Et donc, le monde de Warhammer, c'est tout ce qui a lieu. Autrement dit, c'est tous les faits. C'est tous les faits qui composent le monde de Warhammer. Donc on peut les énoncer. Peut-être que tous les faits qui composent le monde de Warhammer, ce sont tout simplement tous les livres, toutes les propositions, pardon, contenues dans l'ensemble des livres qui sont canons pour les joueurs de Warhammer. Par exemple, on pourrait énoncer ça comme ça. Donc le monde est tout ce qui a lieu. Voilà, le monde tel que quand le langage énonce, voit un monde quelque part, c'est tout ce qui a lieu, et donc par extension, on sait ce qui n'a pas lieu. Donc par exemple, si on prend par exemple le monde de sens, par exemple, qui est donc, eh ben on pourrait dire, dans le monde de sens, il est un fait que Bran Oberon est l'empereur de la Fédération du système solaire. Bon, bah si je dis que Bran Oberon est l'empereur de la Fédération du système solaire, ça veut dire par extension que je dis le fait négatif suivant, Miphos n'est pas l'empereur de la Fédération du système solaire. J'ai postulé l'existence d'un objet simple qui est Miphos, j'ai postulé l'existence d'un objet simple qui est Bran Oberon, j'ai postulé l'existence de la Fédération du système solaire, la FDSS, j'ai postulé le fait que la FDSS était un empire, et donc j'ai dit Bran Oberon est l'empereur, etc. Donc là j'ai fait un fait, j'ai construit un fait qui est Bran Oberon. Et donc, ce qui rend vrai le fait, enfin, c'est plutôt le fait et ce qui rend vrai la proposition Bran Oberon est l'empereur de sens, de la Fédération du système solaire dans sens, par exemple, c'est un fait, mais ce n'est pas un événement. On voit bien que ce n'est pas un événement dans le monde, hein. Il n'y a pas d'historien qui travaille sur Bran Oberon, enfin, du moins, pas encore. N'est-ce pas? Donc voilà. Je pense que vous avez bien compris en quoi cette notion de monde et comment en fait tout cela, comment le langage en fait monde, comment le langage produit des faits va rendre compte de la pensée du monde selon Wittgenstein. Et donc il faut savoir un truc, c'est que donc le Tractatus est forgé de sept aphorismes seulement. Et donc là, on vient d'en faire un. Donc on a fait un septième, en fait ensemble, là on vient de travailler, on vient de comprendre en fait le niveau 1, comment dire, le niveau 1, on a fini le niveau 1. Voilà. On a fini le niveau 1. Et donc on va passer au niveau 2. Il nous reste 10 minutes pour commencer le niveau 2. Vous allez être frustrés parce qu'à un moment donné, je vais m'arrêter. Et je vais m'arrêter en plein milieu d'un raisonnement, évidemment, comme j'ai fait la dernière fois, c'était horrible. Donc voilà. Donc cette notion de monde. Bon, peut-être avant de passer à la suite, vous laisser un peu de temps pour les questions, peut-être, si vous avez des questions, je ne sais pas, s'il reste des questions. Merci beaucoup, Jérôme, pour tes interventions. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, fille de prof. Merci à tous. Vraiment, vos interventions, elles sont vraiment bien. N'hésitez pas à interrompre. Hein. J'ai vu Jérôme être un peu gêné d'avoir interrompu. Bienvenue, Locke SNK. Je ne t'ai pas dit bonjour, excuse-moi. C'est une faute. Le chat a défilé un peu vite et puis j'essaye d'être un peu concentré. Mais merci beaucoup à tous ces gens qui nous rejoignent, à tous ces nouveaux followers qui font vivre cette chaîne. N'hésitez pas à... Ah tiens, j'ai oublié de lancer. J'ai oublié de lancer Streamlab. Je sais pas si ça marche en cours de live de lancer Streamlab, si ça actualise du coup. Ah ouais, si ça actualise les. En fait, logiquement, vous êtes censé avoir les subs qui apparaissent en bas. Enfin, pas les subs, parce que les subs c'est du vocabulaire technique. Les follow, excusez-moi. C'est censé avoir les follow qui apparaissent en bas. Il y a eu plein de nouveaux follow aujourd'hui et j'ai pas eu l'occasion de les saluer. Alors je voudrais dire un grand merci à Radrulus, à Wishlefo, à Vulpasio, à Youpidibou, à Narcy Monel, à Locke SNK et à Chemise. Merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne. Ça me fait super, super, super plaisir. Ouais, les alertes sont là, mais. T'as vu, ça s'actualise pas comme je voudrais en bas, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça s'actualise pas. Voilà, on verra ça. Je pense que c'est parce que j'ai pas lancé le truc au démarrage hein, que ça s'actualise pas. Mais c'est pas très très grave. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Si vous en avez encore sur le monde, c'est l'occasion ou jamais de les poser. Je pense que vous commencez à voir en quoi Wittgenstein est un philosophe qui va être très intéressant pour le monde du jeu de rôle. Parce que cette idée de chercher à nous montrer le monde tel que le langage nous le fait voir, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que cette idée de dire en fait, je vais aborder les problèmes de la philosophie, non pas par la vérité, non pas en cherchant le vrai, non pas en cherchant à énoncer des propositions vraies, mais en cherchant d'abord à étudier le langage. Imaginez, c'est un petit peu comme Léonard de Vinci finalement. Quand Léonard de Vinci étudie l'optique, étudie l'œil, il étudie la façon dont on regarde. Plutôt que d'étudier le monde, en fait, il cherche l'origine de l'âme, et pour chercher l'origine de l'âme, il va décomposer comment voit l'œil. Et il va faire les premières observations en matière d'optique. Ben là, c'est pareil, Wittgenstein dit, mais en fait, avec quoi on fait de la philosophie ? De la même manière que Léonard de Vinci dit, avec quoi je regarde le monde ? Je le regarde avec l'œil. Donc ça veut dire que l'œil contient une partie de mon âme, et donc il faut d'abord que je décompose la manière dont le champ visuel m'est offert par l'œil pour comprendre, en fait, l'âme et le monde qu'elle me donne à voir. Et bien, de la même manière, en fait, Wittgenstein dit, mais qu'est-ce qui me permet de faire de la philosophie ? Ce qui me permet de faire de la philosophie, c'est le langage. Et donc, qu'est-ce qui compose, en fait, fondamentalement le langage ? Et comment le langage fonctionne ? Et donc, du coup, à partir du moment où je sais comment fonctionne l'œil, je sais comment je vois le monde, de la même manière, à partir du moment où je sais comment le langage fonctionne, eh bien, je vais pouvoir aborder les problématiques philosophiques de façon beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intelligente. C'est ça, en fait, que nous propose de faire Wittgenstein. Alors, Arrakis, un des buts de l'opération du cours Rome, c'est d'apprendre à reconnaître les modalités de construction culturelle propagandiste, faisant passer pour réel des fictions. Un des buts de l'opération du coup Rome, c'est d'apprendre à reconnaître les modalités de construction culturelle propagandiste en faisant passer pour réel des fictions. Je crois pas qu'il y ait cette volonté chez Wittgenstein de. Pas dans le Tractatus en tout cas. Qu'il y ait cette volonté chez Wittgenstein de lutter contre la propagande politique. Ou de lutter contre la dimension fictionnelle du langage. Au contraire même, parce qu'on va voir que pour lui, en fait, la fiction, la poésie, l'art, en fait, c'est justement ce qui va nous permettre de répondre aux problèmes, les éléments, en fait, qui vont nous permettre de répondre aux problématiques existentielles. Donc la véritable philosophie, elle va être non pas dans le but de rechercher à faire de la philosophie, mais dans le fait de rechercher à faire de la poésie, à faire de l'art, etc. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, en tant que philosophe, qui soit... purement wittgensteinien, j'ai cherché à répondre à Wittgenstein, non pas en faisant un livre de philosophie, mais en faisant un jeu de rôle. Et en faisant justement, finalement, j'ai suivi en fait les consignes de mon maître à penser, en faisant en fait non pas un livre de philo, mais en fait un JDR pour répondre au Tractatus, ou en tout cas pour montrer en fait ce que le Tractatus voulait nous dire. Ça, c'est le premier élément. Dans cette même démarche, je pense beaucoup à HAL 236 en ce moment, parce que je suis en train de revoir certaines de ses vidéos. Et HAL 236 fait un travail sur Beksinski, donc qui est un peintre polonais, me semble-t-il, ukrainien ou polonais? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, qui est un peintre, qui veut justement, qui peint pour ne pas avoir à parler. Et qui veut, qui a toujours dans ses carnets noté le fait qu'il fallait surtout pas avoir une analyse par le langage de son travail. Ou en tout cas, pas en cherchant à l'analyser, en le déconstruisant par un langage, on va dire, scientifique, ou qui chercherait à énoncer des vérités. Et donc Beksinski conseille à ses interprètes de les approcher finalement avec le cœur, un peu à la manière dont parle Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit pas bien, quand on cherche à utiliser le langage pour dire la vérité, pour dire des choses vraies, eh bien, peut-être qu'on s'éloigne des problématiques existentielles humaines, et qu'en réalité, les problématiques existentielles humaines doivent être traitées avec le cœur. Et bien de la même manière, en fait, HAL 236, dans son analyse de Beksinski, propose en fait une analyse via un poème, en fait, une poésie. Et sa vidéo est très poétique, il dérive, il regarde, en fait, il contemple l'étoile de Beksinski, et il cherche à essayer de rentrer dans le monde imaginaire de Beksinski, et il a toute une espèce de phase dans sa vidéo, à la fin de sa vidéo, en fait, qui dure quand même... Enfin, la fin de la vidéo dure, je sais pas, je crois que ça a duré une petite heure, durant laquelle, en fait, il va analyser l'œuvre de Beksinski, non pas avec les mots, mais en cherchant à faire un poème pour comprendre en fait le cheminement de l'œuvre du peintre. Donc en fait, de la même manière, Wittgenstein nous amène en fait à la fin du Tractatus à jeter en fait le Tractatus aux orties et à quitter en fait le champ de l'analyse linguistique, de cesser en fait de rechercher à voir dans ses propositions du vrai et d'essayer d'y voir du beau pour comprendre en fait ce que ces énoncés cherchent à montrer et non pas pour se dire à la fin le Tractatus dit la vérité. Wittgenstein aurait détesté que quelqu'un dise que le Tractatus disait la vérité. Il aurait dit « Vous n'avez rien compris. Si vous pensez que le Tractatus dit énonce des choses vraies, c'est que vous n'avez rien compris au Tractatus. » Le Tractatus cherche à montrer des éléments constitutifs du langage. Et ce faisant, le Tractatus est une sorte de paradoxe, parce qu'on ne peut pas, à l'aide du langage, montrer les éléments constitutifs du langage. Ce serait comme regarder un œil avec un œil. Ce serait comme... enfin, avec son propre œil, je veux dire. Ce serait essayer de regarder votre œil avec votre propre œil. Alors évidemment, vous pourriez dire, oui, mais il y a le miroir, etc. Mais voilà. Est-ce qu'on peut commencer par le jeter? Nous demande Brand. On peut pas commencer par le jeter. On peut pas commencer par jeter le Tractatus. Parce que Wittgenstein ne dit pas « ne lisez pas mon livre ». Contrairement à Sens qui dit « vous gagnez si vous ne le lisez pas ». Wittgenstein, lui, il dit « il faut traverser le livre ». Il faut le traverser comme à la fin, quand on a fini de monter à l'échelle, on range l'échelle au placard. Là, c'est de la même manière, en fait, Wittgenstein vous propose un espèce de voyage avec des propositions qui ont l'air sensées pour vous faire comprendre, en fait, comment le langage traite du monde et vous faire et tenter en fait de vous faire comprendre que le langage lorsqu'il parle de la philosophie est insensé, est un poème en fait, et que donc le Tractatus lui-même en fait doit être vu comme une poésie. Fille de prof nous demande, par rapport aux faits simples et aux événements, une pierre par exemple. Une pierre a pas attendu d'être appelée pierre avec le langage pour relationner avec le monde en tant que pierre. C'est ça qui me perd. Alors, par rapport aux faits simples et aux événements, une pierre, par exemple. Une pierre n'a pas attendu d'être appelée une pierre par le langage pour relationner avec le monde en tant que pierre. Et c'est ça qui me perd. Eh bien, fille de prof, en fait, non, tu n'es pas perdu. Tu y vois clair. Je vais t'expliquer pourquoi. Dire qu'une pierre était une pierre avant le langage, ça veut dire qu'il existait des faits, enfin, il existait... Si le monde existe, si le réel existe, il existe indépendamment du langage qui se porte sur lui pour le décrire. La pierre existe indépendamment du langage qui se porte sur elle pour la décrire. Même si, fille de prof, attention, il existe tout un pan de la philosophie qui suppose une constructivité du langage. Les constructivistes supposent que c'est le langage, parce qu'il réifie la pierre, qui permet à ton cerveau en fait de faire d'un objet une pierre. D'accord ? Donc déjà, la phrase... Une pierre n'a pas attendu d'être appelée une pierre avec le langage pour relationner avec le monde, elle serait contestée par tout un pan de la philosophie. Mais moi, je te l'accorde, d'accord? Je pars du principe que tu as raison et qu'effectivement, il existe des objets indépendamment des êtres humains qui les ont nommés. Il existait des planètes, des étoiles bien avant les êtres humains et leur langage qui, rappelons-le, peut être considéré par les sciences comme le fruit de la sélection naturelle et uniquement le fruit de la sélection naturelle. C'est une manière de voir le langage. D'accord? Donc on peut imaginer qu'effectivement il existait des pierres avant qu'il y ait des humains pour les nommer. Très bien. Donc là en fait ce que tu fais, c'est que tu es en train de distinguer le fait de l'événement. C'est-à-dire que tu dis il existait des événements avant qu'il y ait des faits. C'est totalement vrai. Il existait des événements avant qu'il existe des propositions pour les décrire. On est d'accord avec ça. Donc il existait des événements avant les faits. Mais les faits sont un objet qui est postulé par le langage. Est-ce que tu comprends mieux? Donc en fait, t'es pas perdu. C'est juste que tu. Encore une fois, il faut distinguer le fait de l'événement. Des événements, il y en avait avant qu'il existe des faits au sens de Wittgenstein dans le Tractatus. Il y avait des événements. Il y a eu des événements avant qu'il existe un langage, effectivement, pour les décrire. Mais le monde, en fait, ce qui est incroyable, c'est que le langage fait des événements des faits. Il transforme les événements en faits. Et donc du coup, le langage, il produit des faits, et comme il produit des faits, il produit des objets qui entrent en relation les uns dans les autres dans les faits. Et ça, justement, ça va être la partie 2, ce qui a lieu, le fait et la subsistance des tas de choses. Justement, ça va être la suite de l'histoire. Donc reste avec ton intuition, fille de prof. Enfin, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'es perdu. C'est ça que je comprends pas, parce que là, tu vois clair, en fait. Effectivement, il existait des événements avant les faits, donc donc t'as raison. En fait, il faut imaginer que les faits sont c'est uniquement ce qui rend vrai les propositions. Donc, c'est pas forcément un événement. Quand je dis il pleut toujours en Bretagne, c'est pour certains c'est un fait, mais il n'y a pas un événement qui quoi. C'est pas vrai, hein, je vous rassure, il fait beau hein, parfois en Bretagne. Hein. Hein, bon, c'est pas. Adrien, qui est dans le chat, peut peut-être le confirmer. Hein. Il a fait beau là ce week-end, là, Adrien, là. Donc voilà. Ça va? J'espère que je t'ai aidé, fille de prof. Il a fait beau 10 fois. Salaud, Adrien. D'accord. Donc voilà. Donc la suite de l'histoire. Donc on va s'arrêter là pour ce soir parce que je pense que c'est déjà assez dense. N'hésitez pas, comment dire, s'il y a des questions, si vous ruminez tout ça, on va dire pour le mois prochain, et puis s'il y a des questions qui vous viennent, vous les notez sur un petit carnet et vous les poserez au début du prochain live. Comme ça, je pourrai éventuellement tenter d'y répondre. Et puis c'est cool ça. Ça va nous permettre de bien avancer, quoi. Alors, donc, Jérôme, parce qu'appeler fait un truc qu'un n'est pas fait, mais énonce par le langage est super confusant. Parce que appeler un truc fait, ok, ça y est, j'ai compris. Parce que appeler un truc un truc qui n'est que énoncé par le langage, c'est super confusant. Oui, c'est super confusant pour nous. Parce qu'on a l'habitude. Depuis en fait, parce que dans nos études, il faut savoir que, oui, c'est clair et net, Brand, je suis parfaitement d'accord. La notion de fait est confusante, parce qu'il faut bien se rendre compte que depuis Indiana Jones, souvenez-vous, dans Indiana Jones, dans Indiana Jones 3, il dit, l'histoire est la science qui étudie les faits. C'est faux. C'est faux. L'histoire est la science qui étudie des événements. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans le sens commun que la notion de fait décrit des événements vrais. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu vois le glissement, Jérôme? C'est qu'en fait, maintenant, le fait, c'est devenu par glissement dans le journalisme, dans l'histoire, c'est devenu en fait un événement vrai. Et ce glissement a fait que du coup, le fait s'est transformé en un événement. Mais un événement qui a une particularité, c'est qu'il est vrai. Mais en fait, c'était pas du tout ça la notion de fait à l'origine. Ça, il y a des événements, et voilà. Et je pense que ce glissement, en fait, qu'on a fait, cette confusion qu'on a fait entre le fait et l'événement, elle explique une grande partie des confusions qu'on a aujourd'hui en épistémologie. C'est pas un glissement, à mon humble avis. C'est possible, hein. Je connais pas l'histoire, j'ai pas fait l'histoire de la notion de fait. J'avoue, peut-être qu'effectivement, il y a d'autres raisons, etc. Ouais. Peut-être, hein. C'est fort possible, c'est fort possible. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, dans notre langage, je te parle juste de Wittgenstein, la façon dont Wittgenstein l'écrit dans le Tractatus. Mais c'est clair que la notion de fait telle qu'elle est décrite dans le Tractatus, mais ça, c'est commun en philosophie, tu vois. Le bien tel que le décrit Platon, c'est évidemment pas le bien tel que toi tu le dis quand tu sors des chiottes, quoi. Le bien, le beau tel que le décrit Aristote ou tel que le décrit Platon, c'est pas le même. Le beau tel que le décrit Spinoza ou tel que le décrit Platon, c'est pas le même, tu vois. Chaque philosophe a ses notions à lui. Et le fait, ici, chez Wittgenstein, n'a pas l'acception, évidemment, que du vocabulaire commun. Et c'est ça qui est confusant. Nous, dans notre vocabulaire, le fait, c'est rentré comme un événement vrai, encore une fois. Difficile de faire rentrer ça dans un message, mais j'essayais de parler non de l'intention de Wittgenstein, mais plutôt de la tienne dans cette transmission, entre autres. Comprendre les fondements de comment le langage crée les fictions ne permet-il pas de saper le pouvoir des auteurs qui nous enferment dans leurs romans tout en nous armant pour réécrire les nôtres? Absolument. Ah oui, d'accord, ok. Tu parlais pas de la démarche de Wittgenstein, François, tout à l'heure, tu parlais de la mienne, effectivement. Moi, une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup Wittgenstein et pour lesquelles j'étudie Wittgenstein, c'est parce qu'effectivement, je cherche à faire des distinctions qui permettraient à minima de prendre du recul sur les récits, en fait. Ce que j'appellerais plutôt des récits plutôt que des fictions. Parce que du coup, les récits, ça rentre aussi dans le cadre des récits médiatiques que nous présentait Daniel Schneiderman. Ça cadre aussi avec les récits historiques, le roman national, etc., etc. Donc voilà, c'est effectivement déconstruire la notion de récit. Ça ira un peu mieux en reprenant les deux lives en continuité pour récupérer ce que j'ai loupé au début. Ça marche. Et n'oubliez pas aussi que, et c'est normal, au cours des lives comme ça, je m'emporte, je fais beaucoup d'approximations, etc. Donc il est possible que j'ai fait des petits glissements moi aussi dans la théorie de Wittgenstein et tout ça. Et donc n'hésitez pas, si vous voyez des petites contradictions dans mon discours, n'hésitez pas à me reprendre. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une contradiction dans le Tractatus ici. Allez, je vais prendre 5 minutes pour vous l'expliquer après. Je vais juste lire le chat. C'est pas un glissement, à mon humble avis, nous dit Brand. C'est le participe passé de faire. Oui, ben oui. Ben oui, tout simplement. Et la confusion fait-événement se fait au détriment des propositions fausses, a.k.a. les fictions. Le défi de prof. Et la confusion fait-événement se fait au détriment des propositions fausses. Je ne comprends pas cette proposition. Fille de prof, si tu veux bien m'éclaircir cette proposition, ça m'intéresserait. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que les propositions fausses, donc par exemple Aslan est le prince de le dieu et le dieu de Narnia, nous permet d'avoir des fictions en fait. C'est-à-dire que en fait les fictions, oui, les fictions sont créées dans l'espace logique. On aura l'occasion d'y revenir à ça. Hein. Mais les fictions, en fait, telles que Narnia, telles que Harry Potter, etc., sont créées dans l'espace logique. D'accord? C'est bizarre, mais le Père Noël est dans l'espace logique. Hein. Le Père Noël existe dans l'espace logique des faits. C'est bizarre, mais c'est tout à fait possible qu'il existe. Le Père Noël peut exister, si je veux dire, en un sens. Donc, du coup, il existe dans le Père Noël fait partie du monde, si on considère le monde comme l'espace logique. Et c'est justement l'origine de la contradiction dont je voulais vous parler tout à l'heure. Il y a une contradiction dans les premières lignes du Tractatus. Et je vais essayer de vous la montrer. On nous dit que le monde est la totalité des faits. Et après, on nous dit que le monde est déterminé. Hein, on nous dit que les faits dans l'espace logique sont le monde. Beaucoup de personnes ont vu ici, dans cette proposition, une contradiction. Parce que si on dit que les faits, que le monde, pardon, n'est que les faits les faits actualisés, donc les traits noirs sur mon petit schéma là, vous vous souvenez, il y a des traits pointillés qui représentent les propositions possibles et pardon, les faits. je m'emballe, j'anticipe un peu. Donc on a donc les traits noirs qui symbolisent les faits et les traits en pointillés qui symbolisent les faits possibles. Vous vous souvenez de mon petit schéma? Eh bien donc soit le monde c'est les faits dans l'espace logique, autrement dit le noir plus le pointillé. Soit le monde, c'est la totalité des faits, c'est-à-dire uniquement les traits noirs. Et vous avez vu dans la première partie du Tractatus, il y a une petite... Alors, c'est pas vraiment une contradiction, hein. Elle peut se résoudre facilement, mais on pourrait dire, ah, regarde, Wittgenstein, t'es contradictoire. Dans un cas, tu dis que le monde, c'est l'espace logique et les faits qui sont dedans, et dans un autre, tu dis que c'est que les faits, et que c'est grâce à ces faits-là qu'on voit les faits négatifs, et tu dis que le monde, c'est à la fois les faits négatifs et les faits, d'un côté, et en même temps, tu dis que le monde, c'est que les faits positifs. Alors, faudrait choisir. Mais en fait, c'est pas une contradiction. C'est parce que les faits négatifs sont une conséquence logique des faits positifs. Et donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le monde, ce sont les faits positifs au sein de l'espace logique. Et ce n'est pas l'espace logique plus le monde, tel qu'il est. D'accord ? Mais on pourrait ici y voir une espèce de contradiction. Bon, là, je rentre dans les... Là, vraiment, vous me poussez dans le fond de tiroir. Enfin, je me suis poussé tout seul. Aucun souci avec ça, faut reprendre son vocabulaire. Ok. Non, non, mais je sais, t'inquiète, Jérôme, je vois bien que comment dire, tu es bienveillant, hein, vis-à-vis du Tractatus et tout ça, et que tu ne cherches pas à lui tordre le cou, via cette notion de fait. J'ai parfaitement compris ta démarche, qui est d'éclaircir tout simplement cette notion de fait, et je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus, c'est que il faut l'éclaircir, parce que si on lit le Tractatus, c'est pour ça qu'il faut un passeur, tu vois, pour comprendre un truc comme ça. Parce que si t'as pas quelqu'un pour t'expliquer que les faits tels qu'ils sont là, c'est pas les faits dont Daniel Schneiderman te parle toutes les semaines, ou dont je sais pas, les historiens t'ont parlé pendant des... ou dont Indiana Jones te parle tout simplement dans Indiana Jones 3, bah en fait tu comprends pas en fait ce que dit Wittgenstein ici, et c'est normal. Rick Pogan nous dit « En tout cas, merci pour ce commentaire éclairé, Romaric. Je sens que lire le Tractatus tout seul m'aurait valu une overdose d'aspirine. » Ah ouais, tu m'étonnes. C'est une horreur. C'est une horreur à lire tout seul. Mais vous inquiétez pas. Vraiment, vous allez voir, au terme de ces explications, je suis sûr et certain que vous pourrez comprendre le Tractatus. Il n'y a aucun souci. Si, néanmoins, vous n'êtes pas... Comment dire? Vous n'aimez pas... ouais, on va dire... Si vous n'aimez pas le live, finalement, si vous n'aimez pas ce genre de truc, on vous explique en la même. Je vous invite à lire donc Le Monde Logique, qui est caché derrière l'écran de sens. En fait, si vous achetez l'écran de sens, en fait, l'écran de sens vous sera livré avec Le Monde Logique. Le Monde Logique, donc, c'est un livre qui est écrit dans la fiction de sens par Miphos Kadria et qui explique. Mot pour mot. En fait, mais attends, j'ai un truc, attends. Tac. En fait, Le Monde Logique, c'est ce bouquin-là. Bon, je vais filer le PDF. Je pense que je vais finir par filer le PDF au Patreon. Parce que je crois qu'il m'en reste plus que deux. Il me reste plus que deux Mondes Logiques, il faut que je le fasse réimprimer. Et donc, du coup, le voilà. Donc, Le Monde Logique, donc, c'est un livre de Miphos Kadria. Donc, c'est un livre qui est dans le cadre de la fiction de sens. Et donc, ce sont des conférences de Miphos Kadria où il présente, en gros, le commentaire de Wittgenstein que je suis en train de vous faire là. Donc, en gros, vous pouvez tout à fait retrouver par écrit. Donc, ça vous permet de vous arrêter sur chaque mot. En fait, retrouver, vous voyez, les faits positifs, les faits négatifs. Là, je prends le soleil tourne autour de la Terre comme exemple. Voilà. Vous pouvez retrouver ici tous les schémas, toutes les propositions, finalement, que j'ai énoncées au cours de ce podcast, j'allais dire, au cours de ce live. À noter aussi que vous voyez les exemples de faits que je prends dans le livre de Miphos. Ce sont des... Regardez, la Terre tourne autour du Soleil. Mais ici, Ignos Première est la première impératrice de la Terre. Bah voilà, ça c'est un fait. Et pour autant, c'est pas un événement de notre monde. C'est un événement du monde de sens. Bran Oberon est l'empereur de la Fédération. Tiens, voilà, j'ai pris exactement le même truc. Donc voilà, donc vous pouvez aussi trouver un commentaire du Tractatus. Donc vous pouvez retrouver mon commentaire du Tractatus, ma vision du Tractatus, dans mon livre qui s'appelle Le Monde Logique, donc où je parle bien entendu à travers ce personnage de Miphos Kadria. A savoir aussi que Miphos Kadria présente la vision du cercle de Vienne, puisque lui il pense que le Tractatus dit la réalité. Dit le vrai, puisque lui, il a Cosmo et Rebirth, qui sont deux machines surpuissantes qui lui ont permis en fait d'accéder à tous les faits du monde. Donc il est convaincu en fait que Wittgenstein avait raison. Et il se trouve dans le sens que le monde coïncide avec la vision de Wittgenstein, c'est-à-dire que la métaphysique de Wittgenstein, dans le sens, est la véritable métaphysique. Contrairement à notre monde réel, dans lequel ce n'est pas le cas, évidemment. Donc voilà, je vous invite à parcourir le monde logique si vous l'avez chez vous, parce que je pense que vous êtes nombreux, nombreuses à l'avoir chez vous déjà. Donc si vous voulez réaccéder à ce petit commentaire, par écrit, ce qui vous permet évidemment, bien sûr, de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, et ben je vous propose d'arrêter là. C'était déjà bien dense, enfin je pense. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous reviendrez avec plaisir écouter mes délires sur le Tractatus de Ludwig Wittgenstein. J'espère que ça vous a rendu curieux de cette philosophie qui est, à mon avis, majeure. C'est une philosophie majeure. Et elle nous permet tellement de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, elle nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, pas la réalité. Hein. Elle nous permet de comprendre le monde qui nous entoure en ceci que le monde qui nous entoure est pour partie construit par le langage. Hein. Donc, le Tractatus ne mène pas à la vérité, il ne mène pas au réel. Le Tractatus nous permet de mieux comprendre la façon dont le langage construit le monde qui nous entoure, construit le monde réel, ou en tout cas nous fait voir le monde réel. Il nous explique la notion d'objet, il nous explique tout ça. Alors une fois qu'on a compris le Tractatus, eh ben on peut aller revoir l'interview de Pierre Lagrange qu'on a faite l'autre jour, puisque Pierre Lagrange, justement, est un sociologue ne sait pas, il dit ne pas savoir ce qu'est la réalité, et par contre ce qu'il cherche à étudier c'est justement la façon dont les acteurs, dont les personnes sur son terrain parlent du monde. Et donc du coup lui aussi il est très intéressé évidemment par toute cette notion wittgensteinienne de construction linguistique et tout ça. Et donc c'est un élément avec lui j'ai beaucoup échangé et nous serons peut-être amenés à rééchanger. Ça me ferait plaisir à un moment donné parmi ces lives de vous proposer une petite discussion avec Pierre Lagrange autour de ces notions. Parce que voilà, c'est un bon copain de philosophie, d'anthropologie et tout ça. Wittgenstein disait, un bon ami, c'est quelqu'un avec qui on peut débiter des kilos de non-sens. On verra ce que ça veut dire, mais en tout cas, avec vous, j'ai l'impression qu'on a débité des sacrés kilos de non-sens. Merci beaucoup à vous. Je rattrape un petit peu le live, j'ai rien raté. À noter, nous dit François que les commentaires de celui-ci sont importants. Par contre, j'ai toujours pas compris l'intervention de Coprat de Bonville. Ok, j'aurai peut-être l'occasion de revenir dessus. Super que tu fasses toutes ces explications enfin après tant d'années de podcast. J'avais commencé, hein, j'avais, il y avait un podcast sur Wittgenstein, hein, sur, il y a un podcast sur Wittgenstein dans les podcasts de la cellule, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, on n'avait pas pu rentrer autant en fait dans le détail en fait de la lecture du traité de Wittgenstein. Et vous allez voir la semaine prochaine, on va attaquer des propositions vraiment hardcore, et des moments où on ne comprend rien. Alors attendez, vous allez voir aussi qu'il y a des propositions. Ou moins encore, il y a des aspects des propositions de Wittgenstein que je ne comprends pas encore. Hein. Donc, et je bien malin qui pourrait les comprendre. Hein. Pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui traitent du Tractatus, je peux vous dire qu'il y a des trucs qui restent encore obscurs, y compris pour les meilleurs commentateurs du Tractatus. Merci beaucoup à vous, merci pour vos compliments, une vraie masterclass, merci beaucoup. Merci mille fois pour tous ces compliments, ça me fait très très plaisir. Merci à Jérôme Larré d'être passé sur le chat pour ses questions. Merci à Fille de Prof, merci à Damask. Merci à Mr. Rick Pogan, ça fait super plaisir de te voir là toutes les semaines. Merci à Boody Life pour sa modération, pour sa gentillesse, pour son accueil de toutes les personnes qui viennent ici. Merci à François Newtou évidemment d'avoir posé des tas de questions. Merci à Ashlord, merci à Alex. Merci à Chemise d'être passé également, à Adrien. Cahuzac, ça me fait très très plaisir de te retrouver ici. merci à vous tous et toutes, merci aux nouveaux d'avoir de suivre la chaîne. N'oubliez pas que cette chaîne vit, et la cellule aussi, ne vit que grâce à vos dons sur Patreon et grâce aux achats des jeux et des ouvrages des gens qui sont sûrs qui viennent à ces émissions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller revoir ces vidéos sur YouTube, à mettre la petite cloche, à vous abonner sur YouTube aussi, à partager quand vous voyez les lives qui arrivent sur les réseaux sociaux, à les partager sur les réseaux sociaux, c'est très important pour moi. Ça m'offre de la visibilité. Et n'hésitez pas aussi, comme vous êtes nombreux, nombreuses à le faire déjà, à souscrire au Patreon. Merci beaucoup de votre soutien à tous les Patreons. Ça me fait super plaisir de vous voir tous les mois comme ça donner des sous pour ma paroisse. Ça me fait super plaisir. Allez, à très vite. Merci beaucoup tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. À bientôt. Voilà, c'était l'audio du live, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. À très bientôt.